mes copains.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Vassivière 88.6 et 92.3 selon l'endroit où vous trouvez, et Radio Pays de Guéret 96.5. On est toujours en direct de la Courtine, soit très loin de chez nous, avec Didier Yaslovetsky, président de l'association Soldats Russes 1916-1917. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
Une association qui, on le disait avant de prendre les micros, a la particularité d'avoir été créée par des descendants de soldats russes qui vous êtes retrouvés autour de, d'un colloque, c'est ça ?
Voilà, on s'est retrouvés le 30 août 2016. c'est le centenaire. Donc, et on s'est retrouvé à huit familles de descendants lors de ce colloque-là, et naturellement est venue l'idée de créer une association de descendants. Et voilà, donc c'est chose faite depuis 15 jours. Les statuts ont été déposés. Et à l'heure actuelle, nous sommes 18 descendants de soldats russes.
Au-delà de la rencontre entre vous, quel est l'objectif, l'objet de cette association ?
Alors l'objectif, c'est de s'entraider, parce que bon nombre d'entre nous n'avons très très peu d'éléments sur nos descendances. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir retrouver nos familles en Russie. Et inversement, d'autres associations russes qui souhaitent retrouver la famille des soldats russes en France, pouvoir les aider. Voilà. Et le but en association, ça sera beaucoup plus facile vis-à-vis des administrations, de toutes les structures publiques pour avoir des informations.
Oui, parce que vous aviez déjà entamé un travail de recherche pour vous sur votre famille. Vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour trouver des informations.
Moi, ça fait très très longtemps, à la mort de mon arrière-grand-père, Théodore Yaslovetsky, qui est mort en 1970, j'avais commencé à l'âge de 6 ans des recherches. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses, tous ces outils-là. C'était assez difficile. Et j'avais écrit au château de Vincennes. On m'avait déclaré à l'époque que les archives n'existaient pas, qu'il n'y avait aucun document. À Limoges, pour avoir son dossier médical, comme il avait été blessé lors de l'attaque au Fort Brémond, à Courcy, là c'est pareil, on m'avait dit qu'il n'y avait aucun document qui existait. Et grâce à d'autres descendants que j'ai rencontrés, qui eux ont obtenu des informations, m'ont indiqué quelle démarche précise et quelle personne précise il fallait joindre pour avoir ces documents. Donc des personnes qui sont plus enclins à nous répondre favorablement à nos demandes.
Voilà. Est-ce que vous avez constaté avec le temps, donc depuis 1970, vous parliez d'Internet qui a dû changer, mais est-ce que les archives militaires, par exemple, sont plus accessibles maintenant quand vous allez au château de Vincennes ? Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant ?
Maintenant, avec la loi sur l'accessibilité des documents 100 ans après, donc c'est quand même plus accessible. Après, les archivistes aussi ne sont pas forcément sensibilisés. Donc c'est pour ça qu'en se créant en association, on va rencontrer tous les acteurs pour pouvoir les sensibiliser à nos recherches.
Peut-être on peut dire un mot justement sur ton aïeul, donc ton arrière-grand-père. Oui. Qui était-il ? D'où venait-il ? Comment a-t-il traversé ces événements ? Qu'est-ce que tu as pu recueillir comme élément pour reconstituer le puzzle ?
Alors moi, d'abord, je l'ai connu au travers de ma famille. Surtout mon grand-père qui m'en a parlé, parce qu'il est décédé, j'avais 6 ans. Et c'était quelqu'un qui adorait les enfants. Ses petits-enfants, ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Et ensuite, j'ai interrogé pas mal les gens qui l'ont connu. Donc j'ai fait comme vous, j'ai enregistré pour avoir des souvenirs qui soient impérissables, quoi. Ensuite, Il y a une dizaine d'années, j'ai enfin connu son histoire, parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais raconté à ses propres enfants. Donc ça fait 10 ans que je connais son histoire, son parcours, son village. Les seuls documents que j'avais, c'était une photo de son mariage avec son épouse en 1919. Et c'est le document que j'avais, c'était l'autorisation signée du colonel Gautois, l'autorisant à se marier avec son épouse. Et sur ce document, en partie en russe et l'autre partie en français, donc j'avais le nom, son nom de famille, avec son prénom russe, ses prénoms russes, le nom de sa maman et le nom de son village. Et dans les années 70, pour avoir une carte très précise de l'URSS à l'époque, c'était impossible de se procurer ça. Et au fur et à mesure du temps, et j'ai enfin localisé son village grâce à l'association de la CERF, qui, elle, donne un éclat sur les soldats russes, ceux qui sont décédés et qui sont pendant la bataille, qui sont à Saint-Hilaire-le-Grand. Là, vous avez le plus grand cimetière de soldats russes qui est dans la Marne. Et eux, dès que je les ai contactés, m'ont dit le village, il se situe à tel endroit. Donc, fort de ces informations-là, c'était en avril 2011, je me suis dit, il faut à tout prix que j'y aille. Donc, mon objectif, ça a été de repérer d'une part où était ce village qui à l'heure actuelle est en Ukraine. Je me suis inscrit en septembre pour faire apprendre le russe. Et la deuxième étape, ça a été de contacter sur place des gens qui avaient le même nom de famille pour voir s'ils étaient de la famille, s'ils pouvaient m'accueillir sur place et tout. Ce que j'ai fait avec mon professeur de russe, elle m'a aidé à faire une lettre qu'on a envoyée à 6 personnes qui portaient le même nom, au maire du village. Et le 31 décembre 2011, on a eu l'agréable surprise d'avoir une réponse d'une personne de 70 ans qui était prête à m'accueillir dans le village. Mais que, vu son âge et tout, ça serait peut-être plus facile de parler avec son fils, qui, lui, était professeur d'allemand dans une plus grande ville. J'ai pris contact avec cette personne qui m'avait donné son adresse sur Skype. On a discuté. Moi, je faisais très peu. Je connais pas la langue allemande. Donc, avec mon peu de russe, on s'est compris. Lui m'a dit qu'il avait une sœur qui vivait au Portugal et qui avait fait 4 ans de français. Donc ça serait peut-être plus facile pour discuter.
C'est une vraie, enquête journalistique.
C'est une vraie enquête. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que j'ai 6 ans. Donc il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Et mes parents vivant à Valence, en Espagne, j'ai appris ça à ma mère, qui a sauté de joie et qui m'a dit « Mais quand est-ce qu'on va voir la cousine au Portugal ?» Et en février 2012, on est partis tous ensemble au Portugal sur invitation de cette fameuse cousine russe. Et on a passé une semaine formidable à discuter et à la fin du séjour, elle m'a posé la question qu'il fallait. Veux-tu venir au village ? Et là, j'avais le sourire jusque derrière les oreilles. Et j'ai dit, oui. Et on a mis au point ce voyage dès le mois d'août de la même année, donc en 2012. Et me voilà parti au village au mois d'août 2012. Et j'ai parcouru ce village. C'est un village où, à l'heure actuelle, qui a 1200 habitants. Et à l'époque de l'URSS, c'était un village qui avait 10 000 habitants. Et j'ai essayé de trouver des traces dans les cimetières des parents de mon arrière-grand-père. Et malheureusement, j'ai fait les 5 cimetières et des milliers de tombes et tout. J'ai vu des milliers de personnes qui ont le même nom de famille, mais je n'ai pas retrouvé, malheureusement, la tombe de ses parents. Et je suis parti aux archives départementales pour essayer d'avoir un certificat de naissance de mon arrière-grand-père. Mais malheureusement, ils m'ont dit que oui, effectivement, je pouvais obtenir ce document, mais que les archives étant fermées pour le mois d'août, qu'il fallait que je revienne, puisque c'était un document qui a été délivré simplement par un archiviste et que voilà, j'ai quand même été reçu par la directrice des archives de Kirovograd et me disant qu'il fallait que je, malheureusement, que je repasse. Voilà, donc ça sera l'objet d'un futur voyage.
La piste est là, vous savez qu'il y a a priori dans ces archives des documents pour remonter.
Voilà, pour remonter plus loin. Et voilà, sinon, je suis remonté quand même sur l'origine du nom de Jazovetsky. Et en fait, j'ai découvert que c'était un baron, Jazovetsky, qui avait un immense château, le plus grand château d'Ukraine, que actuellement l'État ukrainien essaye de faire classer par l'UNESCO pour avoir des fonds pour pouvoir le restaurer.
Et est-ce que vous avez eu une certaine réussite dans vos recherches? Est-ce que les autres membres de l'association ont autant de réussite et de succès que vous à remonter les traces de leurs ancêtres?
Alors, on essaye au maximum d'aider tous les adhérents de l'association. C'est des recherches qui sont assez longues, mais la plupart retrouvent un espoir, quoi. Parce qu'on leur indique quelle démarche il faut faire pour obtenir un document. Là, j'étais avec notre ami Smirnov, qui vient d'avoir un refus de son dossier médical de son ancêtre. Et voilà, on lui a dit, écoute, tu n'as peut-être pas contacté la bonne personne, on a le nom de la bonne personne, et voilà, il va refaire un courrier, et avec l'appui de l'association, il va obtenir gain de cause. Et là, comme moi, il a très peu de documents. Il a juste une photo de son arrière-grand-père. C'est tout ce qu'il a comme document. Donc, il va pouvoir progresser dans ses recherches. Pareil, on lui a indiqué comment récupérer le dossier de naturalisation de son arrière-grand-père. Là, il commence à avoir des informations pour lui et qu'il va pouvoir transmettre à ses enfants. C'est ça aussi, c'est pouvoir transmettre toutes les informations qu'on glane à droite, à gauche.
Les auditeurs ne sont pas avec nous et ne te voient pas, mais tu as sur la tête une casquette qui n'est pas celle d'un club de basket ou de foot. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce couvre-chef?
Voilà, en fait, mon arrière-grand-père, enfin, comme tous les descendants, comme tous les soldats du corps expéditionnaire, n'avaient que leur tenue. Hein, et moi, la tenue de mon arrière-grand-père avait été prêtée dans les années 50, au club de théâtre du village. Et malheureusement, le club a disparu et sa tenue aussi. Donc, il me tenait à cœur de reconstituer aussi sa tenue, ce que j'ai fait faire en 2013 dans un magasin de reconstitution qui est à Moscou. Ils sont nombreux, ces magasins de reconstitution. Ça, c'est vrai que à Moscou, et même l'État russe refait énormément de reconstitutions. Il n'y a pas que les reconstitutions des guerres napoléoniennes, mais il y a énormément de reconstitutions d'uniformes de la Première Guerre mondiale.
Quel est l'insigne qui est au-dessus de cette casquette militaire, cet écusson?
Alors, il y avait trois écussons sur la casquette des Russes, un pour les soldats de rang, un autre pour les sous-officiers et un autre pour les officiers. Voilà, c'était les écussons de la période tsariste.
Vous disiez que vous n'aviez pas de transmission de son histoire par votre famille, que votre arrière-grand-père n'avait pas parlé des événements à ses propres enfants. Est-ce que dans l'association, d'autres familles ont, eux, une histoire qui s'est transmise de génération en génération? Ou est-ce qu'elles sont dans la même situation que vous?
Généralement, c'est ce qui s'est passé. Ils parlaient très très peu des horreurs qu'ils avaient vécues. Et c'était une période qu'ils voulaient oublier. Et surtout, il n'a jamais... Il n'est jamais reparti dans son village. Il a envoyé des tas de lettres, de courriers qui sont malheureusement certainement arrivés, mais il n'a jamais eu de réponse au courrier qu'il a adressé à ses parents, à ses frères et sœurs. Et très très peu de soldats ont pu repartir. Ils avaient trop peur que soit ils étaient fusillés s'ils étaient pris à la frontière, soit que leur famille allait être inquiétée. Donc lui, il a toujours refusé de repartir. Son meilleur ami, lui, il n'a pu retourner voir sa famille qu'en 1964. Et encore, il avait la police secrète juste devant la porte de la maison de ses parents. Donc c'était une situation... très, très pénible, quoi, parce qu'ils ne savaient pas si en partant, ils n'allaient pas être arrêtés pour être interrogés.
Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pour lui après les années qui ont suivi sa démobilisation qu'est-ce qui lui est arrivé justement après l'épisode du camp de la Courtine?
Alors après l'épisode de la Courtine, on leur a laissé trois possibilités. Soit ils s'engageaient dans une unité française pour continuer le combat, soit ils intégraient des compagnies de travailleurs, soit ils n'étaient pas du tout d'accord. Et là, on les a exilés soit sur l'île d'Aix, soit en Algérie. Moi, mon arrière-grand-père, il a décidé de rejoindre les camps de travail. Alors, ils sont partis en train, ils ont parcouru des milliers de kilomètres, on les a baladés un petit peu partout. Et finalement, 5000 de ces soldats sont arrivés dans la nuit du 31 décembre 1917 à Besançon. Et de là, on les a intégrés dans des unités un petit peu plus petites, de à peu près 500 personnes, là où on en avait besoin. Donc mon grand-père, lui, c'était au camp de Mamirol. Les gens du village se souvenaient bien du campement qui avait été installé sur le terrain de football du village de Mamirol. Et de là, par petits groupes, ils étaient placés, soit ils étaient placés dans des entreprises qui en faisaient la demande, soit ils allaient d'eux-mêmes chercher du travail dans les fermes environnantes. C'était le cas de mon arrière-grand-père, parce que j'avais interrogé les personnes du village et qui m'ont dit que 5 soldats arrivaient en chantant. Lui avait un petit accordéon, il jouait, il chantait, ils étaient tout contents et réclamaient du travail dans les fermes et tout. Et c'est comme ça que lui a été embauché dans une ferme agricole. Et quelques 2 ans plus tard, épousé la fille de l'agriculteur, mon arrière-grand-mère. Voilà, et son meilleur ami, lui, a épousé l'institutrice du village. Et il y a 2 ans, j'ai retrouvé la petite fille de son meilleur ami, là, qui avait épousé l'institutrice. Et on a échangé des lettres qu'on avait chacun de notre côté, de la correspondance qu'il continuait à avoir tout au long de ces années.
Si les personnes qui nous entendent sont soit passionnées d'histoire ou ont des éléments à vous apporter, comment ils peuvent vous contacter?
Alors, le mieux, c'est que je laisse peut-être mes coordonnées hors antenne.
Ok.
Hein, et de contacter la radio qui fera suivre.
Vous avez un site internet ou
non,
page Facebook,
c'est
en préparation.
C'est en préparation, c'est tout juste 15 jours. Les statuts de l'association nous ont été retournés et acceptés au 5 septembre de cette année. Donc c'est tout nouveau. Donc voilà.
Oui, parce que vous êtes 18 familles, mais potentiellement...
potentiellement, il y en a des milliers. Il y a au moins 1000 soldats qui sont restés en France.
Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Oui, et puis on espère que ce genre d'événement et puis la communication que vous pouvez faire autour vous amènera plus d'informations pour votre enquête déjà longue, mais qui est loin d'être terminée.
Je vous remercie également. C'est toujours un plaisir de parler de ce qui me tient à cœur, de ces soldats. Merci.
Merci à vous.
Les programmes, donc ce direct va continuer encore jusqu'à 17h sur les ondes de Radio Vassivière et Radio Pays de Guéret. Un autre intervenant va succéder à Didier Yazlovski. Merci d'être venu et on va écouter maintenant un morceau d'un chanteur russe, un grand chanteur russe. Pour simplifier, on dit souvent que c'est le Brassens russe, c'est Vladimir Vysotsky. On va écouter un morceau qui s'appelle Sour Volodia.
Я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой с похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил. А безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам по его, по горячим. Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. О Володе Высоцком я песню придумать хотел, но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился. Белый аист московский на белое небо взлетел. Черный аист московский на черную землю спустился. Белый аист московский на белое небо взлетел. Черный аист московский на черную землю спустился.